VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 26 août 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 22 civils ont été tués hier par des rebelles ADF à Beni dans le Nord Kivu. Au Mali, le mouvement de Mamoud Diko offre à la junte de collaborer pour la transition. Au Malawi, une chef traditionnelle ordonne de dissoudre les mariages d'enfants qui ont eu lieu pendant le confinement. Deux personnes ont été tuées à Kenosha lors de manifestations violentes pour dénoncer une nouvelle bavure de la police américaine. Convention nationale républicaine, parmi les orateurs de cette troisième soirée, le vice-président américain Mike Pence. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Nouvelle tuerie à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 22 civils ont été tués hier par des rebelles ADF, Eddie Isango.
22 corps sans vie ont été retrouvés au matin dans trois localités du territoire de Beni dans le Nord Kivu. La société civile accuse les rebelles à dominance musulmane des forces démocratiques alliées ADF. L'attaque a eu lieu aux petites heures, selon Jamali Moussa, président de la société civile locale. Les ADF ont tué beaucoup de personnes à l'arme blanche. 11 corps ont été découverts à Maïtike, 7 à Mabassana, 2 à Sayumi et d'autres corps sont près de la forêt, témoigne-t-il. Selon lui, le bilan peut bien être plus lourd car personne ne s'aventure dans la forêt. Jamali Moussa reproche aux autorités de délaisser la population. L'administratrice adjointe du territoire, Rosette Kavula, soutient que les mesures de sécurité sont renforcées, mais rappelle à la population de suivre les consignes. Samedi, 12 autres civils ont été tués par les mêmes groupes. L'armée congolaise a annoncé fin octobre des opérations de grande envergure contre ces rebelles. Les ADF ont multiplié leurs attaques depuis 2014, tuant plus d'un millier de personnes à ces jours.
Une pétition exigeant l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, accusé de négation d'un massacre en 1998 dans l'est de la RDC, est largement commentée en ligne. Dans la pétition partagée, des internautes congolais dénoncent les propos d'un tweet de Vincent Karega le 24 août qu'ils jugent négationniste. Le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Aloïse Ntiwira Gabo, chef des renseignements militaires pendant le génocide de 1994, à l'encontre duquel une enquête pour crime contre l'humanité a été ouverte en France où il pourrait résider. Le procureur général rwandais, Aimable Avugiyaremye, affirme que la justice rwandaise a enquêté sur lui et travaille avec l'unité française chargée de combattre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au Mali, le mouvement de contestation qui s'est mobilisé contre le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit disposé à accompagner la junte qu'il a renversée dans le processus de transition. Nous sommes venus échanger et réaffirmer que nous sommes sur les mêmes positions que les militaires, a déclaré Issa Kaoudjim, un proche de l'imam Mamoud Diko, figure la plus influente du mouvement du M5-RFP. Côte d'Ivoire, la coalition EDS a annoncé qu'elle allait déposer la candidature de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, actuellement en Belgique, à la présidentielle du 31 octobre. EDS comprend notamment GOR, la faction restée loyale à M. Gbagbo au sein de son parti, le Front populaire ivoirien. Son ancien premier ministre Pascal Affine-Guessant, qui a le contrôle légal du parti, a lui déjà annoncé sa propre candidature. Au Togo, 16 militants de l'opposition ont été libérés après avoir purgé leur peine de 4 mois de prison, a déclaré Fulbert Atisso, cadre du MPDD. Ils sont actuellement en quarantaine dans un hôtel de Lomé, conformément aux règles sanitaires imposées en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-il souligné. Ces militants avaient été condamnés à 1 an de prison assorti de 8 mois de sursis pour rébellion et complicité de rébellion. Au Malawi, la chef traditionnelle du district de Dedza a ordonné aux chefs de village de dissoudre tous les mariages d'enfants qui ont eu lieu pendant la période de confinement. Forte d'une autorité informelle sur plus de 900 000 personnes, Teresa Kajindamoto veut voir ses filles reprendre leurs études en septembre. John Lyndon nous en dit plus.
Teresa Kajindamoto, une militante bien connue de la lutte contre le mariage précoce, a déploré une augmentation de cette pratique illégale, ainsi que les grossesses d'adolescentes pendant la période de confinement. Pour cette bataille contre le mariage de jeunes filles, Kajindamoto a uni ses forces à celles des groupes de défense et des droits de femmes, diffusant leur message auprès des parents dans des villages où des taux élevés de mariage précoce persistent malgré une interdiction de 2015. Nous sommes allés dans les villages pour conseiller aux gens d'apprendre à s'occuper des enfants afin qu'ils puissent retourner à l'école quand elles rouvriront, parce que c'est là que se situe l'avenir des enfants, a expliqué Madame Kajindamoto. Le Malawi a adopté en 2015 une loi interdisant le mariage des enfants et portant l'âge minimum à 18 ans, mais le phénomène reste répandu. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, près de 47% des filles au Malawi sont mariées avant l'âge de 18 ans et 9% deviennent des enfants mariés avant leur 15e anniversaire. Le mariage précoce prive non seulement les filles d'éducation et d'opportunités, mais augmente le risque des décès ou blessures à l'accouchement si elles ont des enfants avant que leur corps ne soit prêt.
Paris doit urgemment faciliter le nettoyage des sites de ses essais nucléaires en Algérie dans les années 60, sur lesquels demeurent des déchets toxiques, a estimé l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. La France doit remettre aux autorités algériennes la liste complète des emplacements où ont été enfouis des déchets contaminés, estime l'organisation dans un rapport. En Libye, au moins 6 manifestants ont été enlevés dimanche lors de rassemblements contre la corruption, affirme Amnesty International, demandant la libération de toutes les personnes détenues. Durant cette même soirée, d'autres manifestants ont été blessés par des tirs à balles réelles d'une milice alliée au gouvernement d'Union, affirme l'ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, deux personnes ont été tuées par balle la nuit dernière à Kenosha, dans le Wisconsin, lors de manifestations violentes après qu'un policier a grièvement blessé un Afro-Américain dimanche. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Des violences ont éclaté à Kenosha quand des centaines de manifestants ont défilé pour la troisième nuit consécutive après la diffusion d'une vidéo montrant Jacob Blake grièvement blessé par un policier blanc. Des vidéos mises en ligne montrent des gens courant dans les rues de Kenosha alors que des coups de feu retentissaient. Dans d'autres vidéos, on peut voir des hommes blessés au sol. Les tirs ont entraîné la mort de deux personnes et une troisième personne a été hospitalisée pour des blessures graves, mais qui ne mettent pas sa vie en danger selon les informations communiquées par la police de Kenosha, qui précise qu'une enquête est en cours. Le 24 août, au lendemain de l'incident au cours duquel Jacob Blake, Afro-américain de 29 ans, a reçu les tirs d'un policier blanc dans le dos, le département de la justice de l'État du Wisconsin a ouvert une enquête criminelle. Les policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions, selon la police de Kenosha. La famille de Jacob Blake va porter plainte au civil, a fait savoir l'avocat des droits civiques Ben Crump, qui assure également la défense des familles de Trayvon Martin et de George Floyd, deux autres victimes de bavures policières.
La Convention nationale républicaine en est à son troisième jour ce mercredi. Parmi ceux qui s'expriment ce soir, le vice-président Mike Pence. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le colistier de Donald Trump a choisi un endroit symbolique dans l'histoire américaine pour prononcer son discours. Le fort McHenry de Baltimore, qui a permis de défendre la ville pendant la guerre de 1812 contre les Britanniques et qui a inspiré l'hymne national américain. Les analystes prédisent un discours centré sur le patriotisme, mais aussi sur la réponse du gouvernement face à la pandémie de COVID-19, puisque Mike Pence en est le coordonnateur. Autre discours très attendu ce soir, celui de Kellyanne Conway, conseillère du président Trump qui va quitter la Maison-Blanche le mois prochain pour, dit-elle, se consacrer à sa famille. Plusieurs anciens de l'armée, y compris des femmes, doivent aussi s'exprimer ce soir. Hier, Melania Trump, l'épouse du président, a longuement évoqué l'impact du COVID-19 en Amérique et vanté la réponse de son mari, Donald Trump, face à la pandémie. Elle a aussi plaidé pour l'harmonie raciale aux États-Unis.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
La 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette réunion en mode virtuel regroupe les gouverneurs des 54 pays membres régionaux et 27 membres non régionaux. Le thème central de la session des gouverneurs est axé sur la gestion de la pandémie, notamment mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de COVID-19. L'un des points importants de cette session annuelle de la BAD est aussi la réélection de son président, le Nigérien Akinwumi Adesina, seul candidat en lice. La croissance économique de la Côte d'Ivoire devrait ralentir à 1,8% en 2020 contre 7,2% projeté en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. C'est ce que fait savoir ce mercredi le président Alassane Ouattara. Plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne, notamment l'agriculture, la construction, les transports et le tourisme, ont été touchés par la pandémie qui a ralenti le produit intérieur brut du premier producteur mondial de cacao. La croissance du PIB de la Côte d'Ivoire avait été en moyenne d'environ 8% entre 2012 et 2019, a déclaré Ouattara lors d'un discours à l'Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Démarré hier, le feuilleton de la star argentine du FC Barcelone se poursuit. Lionel Messi nous a communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements, a annoncé le directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes, assurant que le Barça cherche la meilleure solution pour le club et pour Messi dans ce débat de divorce. Mais tous les échanges resteront entre les deux parties, le club et le joueur, et nous ne communiquerons pas sur ce qui se dit par respect car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue, a coupé le directeur sportif. Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Le Barça s'est reconstruit plusieurs fois durant son histoire et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée, c'est de le faire encore une fois autour du meilleur joueur du monde, a répété le directeur sportif qui ne perd pas espoir de retenir la superstar au club. Ici, en MLS, l'Impact Montréal, entraîné par Thierry Henry, a repris le cours de la saison régulière de la Ligue nord-américaine par une victoire 2-0 aux dépens des Vancouver Whitecaps hier pour la 8e journée. Ce succès permet à l'équipe canadienne de s'emparer de la 4e place de la conférence Est. Dans les autres rencontres, les Chicago Fire ont battu le FC Cincinnati 3-0, 1-2 pour New England Revolution face à DC United, 1-0 pour Philadelphia Union face à New York Red Bulls, net victoire 5-2 pour le Houston Dynamo devant le Sporting Kansas City. En basketball, les Clippers n'ont pas fait de détails, 154 à 111 pour reprendre les devants aux dépens de Dallas, 3-2 dans leur série du premier tour des playoffs. De son côté, Denver peut remercier Murray. Les Nuggets, dos au mur, ont vaincu Utah 117 à 107 et ils le doivent à la performance majuscule de leur meneur, Jamal Murray, auteur de 42 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. En face, Donovan Mitchell a encore été performant avec ses 30 points et 5 passes, mais un peu seul pour rivaliser sur la fin du match. Utah mène 3 matchs à 2 et devra se battre jusqu'au bout car les Nuggets n'ont pas dit leur dernier mot. Match numéro 6 ce jeudi. Dans les autres rencontres de ces playoffs, les Los Angeles Lakers mènent face à Portland 3-1. Oklahoma City et Houston sont à égalité, 2 victoires partout. Milwaukee a pris les devants face à Orlando 3-1. Pour les séries terminées, Miami s'est qualifié, 4 victoires à 0 contre Indiana. Pareil pour Toronto de Pascal Siakam et Serge Ibaka, qualifiés devant Brooklyn, tout comme Boston face à Philadelphie du Camerounais Joel Embiid.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple, organe de la junte, continue ses consultations pour la mise en place d'une transition. Aujourd'hui, les Bamakois se posent beaucoup de questions alors que plane l'incertitude après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a tendu son micro à des habitants de la capitale malienne.
Hier, c'était le ballet diplomatique à Kati. Le président du Comité national pour le salut du peuple a accordé des audiences aux ambassadeurs du Maroc, de la France, d'Algérie, alors qu'il avait reçu bien avant celui de la République fédérale de la Russie. À Bamako, c'est la mise en place de la transition qui domine les débats. Moro Diakité, enseignant.
Je veux que la transition soit assurée par les militaires, par ceux qui ont fait le coup d'État, parce qu'ils ont risqué leur vie pour cela. Et là où nous sommes, en réalité, nous nous faisons pas confiance aux hommes politiques maliens car ils ont montré leurs limites. La durée, je ne veux pas que les choses soient précipitées, qu'on leur donne le temps optimal pour qu'ils organisent les élections au moment voulu. Quand tout sera mis au point, donc on peut aller aux élections. Pour moi-même, on peut leur accorder le reste du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant.
Sabine Laba est une femme d'affaires à Bamako. Elle pense que les militaires au pouvoir ne sera pas une bonne chose.
Il faut mettre un civil à la tête du présidentiel. Parce qu'avec les civils, les Maliens peuvent révolter contre lui. Mais si c'est un militaire, les gens ont peur. S'il impose quelque chose, les gens auront peur toujours d'intervenir. Parce qu'ils vont dire que ce sont des militaires, ils ont des armes par-ci, par-là. Donc, le délai même présidentiel, ça, c'est 5 ans. Déjà, Ibeka a déjà fait 2 ans. Donc, ça reste le 3e seulement. En 2023, on peut échanger.
Les associations et partis politiques, membres de la plateforme Force Nouvelle, optent pour une refondation du Mali. Maman Mariko, président des Forces Nouvelles.
Une transition politique qui posera les bases d'un Mali nouveau. Et cela doit se faire de concert avec toutes les sensibilités du pays. Et nous pensons aujourd'hui que les forces armées de sécurité, en étant impliquées avec le comité national de la... doit être impliquées au même titre que les partis politiques, au même titre que la société civile, pour que ensemble nous puissions aller vers les bases d'un nouveau Mali avec une refondation.
La transition doit être une aubaine pour doter les pays de nouveaux textes pour aller vers une 4e république. C'est ce que pense Mohamed Ag Mohamed Al-Khamis.
Il serait préférable, je crois, de laisser un militaire diriger la transition. Parce que ce que nous constatons, et ça aussi, ça s'explique par des faits passés. À chaque fois qu'on choisit un civil, il y aura toujours des contestations après. Parce qu'il est très difficile de tomber sur une personne venant soit de la classe politique, soit de la société civile qui fasse l'unanimité. Donc pour ce faire, il va falloir choisir quelqu'un, je crois, du corps militaire. Maintenant, le reste des postes peuvent être occupés et par des militaires et par des politiciens et par des gens venant de la société civile. En tout cas, la transition, elle doit être faite par toutes les couches, je crois, du pays.
C'est aussi le souhait des militaires qui sont au pouvoir, qui doivent recevoir dans la même optique les M5 RFP à Kapti et qui contestaient le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta les 2 derniers mois. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien parlementaire Guillaume Soro et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ne pourront pas se présenter à la présidentielle du 31 octobre. Ils ont chacun été condamnés à 20 ans de prison dans différentes affaires. La justice a confirmé leur radiation des listes par la commission électorale. L'opposant Akosi Benjo, ancien maire du plateau à Abidjan, a lui aussi été radié. Yacouba Ouédraogo a joint Alexis Tano, journaliste et analyste politique.
Ils ont tous été condamnés à 20 ans de prison, mais le problème c'est que, bon, c'est un débat juridique, hein. Leur condamnation n'est pas encore définitive. Ils ont été condamnés par défaut, on dit par contumace. Or, pour être radié, selon ce que la loi dit, il faut que la condamnation soit définitive, c'est-à-dire n'étant plus susceptible de voie de recours. Ouais, c'est ce que les avocats disent et c'est ce qui est dans la loi aussi. Or, il se trouve que ni le tribunal, ni le président de la CEI n'ont tenu compte du fait que leur jugement n'était pas encore définitif et qu'à tout moment, si ces personnes arrivaient à Abidjan, ils pouvaient saisir la justice pour revenir sur la décision.
Si Laurent Koudou-Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé-Goudé ne sont plus électeurs, la conséquence logique, elle est là. Ils ne sont plus aussi éligibles et donc ils ne pourront pas postuler à la candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire. Ça va de fait.
De toute évidence, oui. Je crois que le combat n'est pas perdu. On voit Guillaume Soro qui a lancé un mot d'ordre qui dit que lui, dans tous les cas, il persistait, il signait, qu'il sera candidat et qu'il va le gagner. Du côté du FPI pro Laurent Gbagbo, ils disent que Laurent Gbagbo reste leur candidat. Et l'avocat de Laurent Gbagbo a encore saisi la justice pour un autre recours par rapport à cette décision de radiation qui avait été prise. Donc nous comprenons que c'est un débat juridique qui va s'engager.
Et donc finalement, le président Ouattara a déposé sa candidature lundi dernier. Guillaume Soro s'était déclaré candidat. Finalement, ce sera compliqué pour lui. Laurent Gbagbo, pratiquement plus possible au vu de la loi et au vu de ce qu'a décidé le tribunal. Henri Kona Bidji s'est déclaré candidat, il n'a pas encore déposé son dossier. Afi Nguessan, pareil. Finalement, on se demande, Ouattara fera face à qui à cette présidentielle du 31 octobre?
À la lieu où les choses vont, on risque de se retrouver dans la situation de 2015, où il y a eu un candidat plus fort et en face des candidats peu importants. Déjà, en ce qui concerne la candidature du président du PDCI RDA, il y a encore des doutes parce que les responsables du pouvoir ont laissé déjà entendre que le président Henri Konan Bédié serait frappé d'inéligibilité parce que dans la loi ivoirienne, un ancien président est membre du conseil constitutionnel. Or, quand tu es membre du conseil constitutionnel, tu ne peux pas faire à des candidatures à la présidence de la République, l'article 4 du code électoral.
On sait que la troisième candidature de Alassane Ouattara est déjà contestée avec des violences dans certaines villes de la Côte d'Ivoire et même quelques morts. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette décision du tribunal enrage aux violences déjà en cours?
C'est vrai que les partisans demeurent mobilisés, mais je pense que pour le moment, ils n'en sont pas là, vu ce qui s'est passé avec les morts qu'on a déjà enregistrés et puis les appels au calme. Je pense que les responsables réfléchiraient par deux fois avant d'appeler encore à manifester. Surtout qu'on accuse la police de ne pas assurer suffisamment la sécurité des gens. On accuse des enfants en conflit de la loi de s'être infiltrés, de massacrer les marcheurs.
Alexis Tano est analyste politique. Il était joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Élection américaine 2020. La première dame, Melania Trump, a plaidé en faveur d'un second mandat pour le président Donald Trump durant la deuxième soirée de la convention républicaine mardi soir. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a, de son côté, rompu avec la tradition en s'adressant à la convention à partir de Jérusalem. Un reportage de Patsy Widakuswara avec le récit de Lionel Gaïma.
S'exprimant dans le jardin de roses de la Maison Blanche, la première dame Melania Trump a tenté de convaincre les Américains que son époux mérite de diriger le pays pendant 4 autres années. Elle a cherché à atténuer certaines préoccupations des électeurs.
Donald n'aura pas de répit avant d'avoir fait tout ce qu'il peut pour venir en aide à tous ceux qui sont affectés par cette terrible pandémie.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est adressé à la convention à partir de Jérusalem, rompant avec la tradition imposant aux employés du département d'État d'éviter des activités ouvertement partisanes lors des missions à l'étranger.
Le président a déplacé l'ambassade américaine dans cette ville de Dieu, Jérusalem, la capitale légitime de la nation juive.
Pompeo a souligné la récente annonce d'une normalisation de relations entre les Émirats arabes unis et Israël, un accord rejeté par les Palestiniens. Il a rappelé aux électeurs la doctrine de Trump, à savoir l'Amérique d'abord. Vanessa Beasley, professeure de sciences politiques à l'Université Vanderbilt.
Vous continuerez de voir la mise en exergue de ce que la présidence Trump croit être des victoires. Et je pense que l'intervention de Pompeo à partir de Jérusalem constitue probablement la principale et elle vise à mobiliser les électeurs qui ont vraiment Israël à cœur.
Dans le sillage de Donald Trump Jr., son frère Eric et sa sœur Tiffany ont eux aussi vanté les réalisations de leur père. Contrairement à la tradition selon laquelle les candidats n'apparaissaient qu'à la dernière soirée de la convention, le président Trump s'est exprimé à la Maison-Blanche. Le chef de l'exécutif américain, qui est connu pour ses mesures drastiques contre l'immigration, a assisté à la naturalisation de 5 nouveaux Américains une autre première dans l'histoire des conventions.
Vous avez gagné la plus recherchée, la plus précieuse, la plus chérie, la plus inestimable des possessions au monde. Elle s'appelle la citoyenneté américaine.
Alors que les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter se sont exprimés à la convention démocrate de la semaine dernière, l'ancien président républicain George W. Bush ne figure pas sur la liste des orateurs de la convention républicaine. Son père, ancien président, et lui-même n'avait pas pris part à la précédente convention en 2016. Matthew Continetti, chercheur à l'American Enterprise Institute.
Ce que cela traduit est la révolution mise en œuvre dans le parti par Donald Trump sur 4 ans. Il a changé le parti républicain plus qu'aucun homme depuis Ronald Reagan.
Le vice-président Mike Pence acceptera officiellement sa nomination ce soir.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au cours des dernières années en particulier, le gouvernement russe a œuvré pour saper l'unité transatlantique et affaiblir les institutions démocratiques dans un effort de rendre ses voisins plus dépendants. C'est pourquoi l'USAID a lancé l'été dernier son initiative Countering Malign Kremlin Influence Development Framework, ou CMKI, cadre pour contrer le développement de l'influence néfaste du Kremlin. L'USAID atténue les tentatives du Kremlin de saper la démocratie et l'autosuffisance de l'Europe et de l'Eurasie en renforçant la résilience économique et démocratique des pays partenaires. En effet, le CMKI ne concerne ni la Russie ni le peuple russe, a dit l'administrateur adjoint de l'USAID pour l'Europe et l'Eurasie, Brock Bierman. Il est conçu pour aider les pays à prendre leurs propres décisions, à les rendre plus autonomes, plus indépendants, leur permettre de décider. Le CMDKI est axé sur 4 domaines spécifiques, a dit l'administrateur adjoint Bierman. Avant tout, la démocratie et la gouvernance, qui sont essentiellement un effort d'édifier des démocraties dans tous nos pays, de permettre aux peuples de déterminer la voie à suivre par leur gouvernement et s'assurer qu'ils élisent les gens qu'ils veulent pour les représenter au sein de leur gouvernement. Deuxièmement, nous œuvrons sur la désinformation, les médias indépendants. Il est important que les gens puissent se fier aux sources dont ils tirent leurs informations. Nous y aidons. Troisièmement, nous aidons dans le domaine de l'énergie en s'assurant d'aider nos pays à être plus indépendants sur le plan énergétique. Enfin, il s'agit de l'économie et de permettre à ces pays de décider où ils veulent concentrer leur commerce et leur partenariat. Contrairement au Kremlin, a dit l'administrateur adjoint Bierman, nous sommes très transparents. Ce ne sont pas seulement le Kremlin et ses associés qui cherchent à créer les dépendances. Bien qu'employant différents moyens, divers néfastes acteurs cherchent à se créer plus d'influence dans les pays vulnérables. Parmi eux, la République populaire de Chine et les pratiques opaques et corrompues de ces entreprises, a dit l'administrateur adjoint Bierman. Nous voulons nous assurer, encore une fois, et que nous aidons les pays à devenir plus autonomes. Ils comprennent les accords qu'ils nouent avec la Chine. Nous voulons assurer qu'ils comprennent que les technologies qu'ils utilisent peuvent créer des problèmes de sécurité et d'atteinte à la vie privée, assurer que ce soit les technologies et les équipements qu'ils comprennent exactement à quoi ils s'engagent en signant au bas d'un document quels sont les résultats qu'ils décident ou non de signer pour obtenir cette technologie, si oui ou non ils décident de ne pas rembourser un prêt. L'administrateur adjoint Bierman conseille à quiconque est intéressé à en savoir plus sur le CKMI de consulter le site https://www.cmki.org. usaid.gov pour mieux connaître l'œuvre de l'USAID.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.